Santé.
C'est bon pour la santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Santé. C'est bon pour la santé. Eh oui, c'est bon pour la santé de se retrouver une fois par semaine, Marianne Paquette. Au micro, bien contente de vous retrouver pour cette deuxième émission de C'est bon pour la santé, en version réinventée, repensée, un petit peu plus dynamique, un 60 minutes pour vous, un petit peu plus diversifié peut-être, mais notre objectif reste le même, vous garder en forme et en santé le plus longtemps possible. On veut profiter de vous et que vous soyez à nos côtés bien longtemps. Aujourd'hui à l'émission, une nouvelle chroniqueuse qui s'ajoute à l'émission France Cardinal Remette. Elle nous parle d'un sujet auquel bien des personnes aînées et leurs familles également seront ou sont déjà confrontées, c'est-à-dire aller dans une résidence pour personnes aînées ou pas, comment on fait face à cette réalité, comment on s'y prépare, parce que ce que l'on veut au bout du compte, c'est transformer cette expérience qui est peut-être parfois inévitable en expérience positive. Aussi Claudine Charbonneau, elle est orthophoniste du côté de l'Estrie, elle nous présente un projet qui offre des services d'orthophonie à domicile, et ce, à des proches aidants qui vivent auprès d'une personne ayant des difficultés de communication qui sont soit liées à un AVC ou à un traumatisme crânien. Également, Julie Provencher, elle, fondatrice de la plateforme Pouvoir de lire, propose des outils, également des conseils, des trucs pour favoriser la lecture chez les enfants, mais aussi chez les adultes, hein, parce que nous aussi, parfois, on a besoin d'une petite tape dans le dos pour nous motiver ou nous apprendre, nous guider à aimer la lecture. Et finalement, Maryse Labbé parle du programme à Félix de la Fondation québécoise du cancer. C'est un groupe de soutien pour les jeunes de 15-39 ans qui vivent avec cette maladie. Mais tout d'abord, un nouveau segment qui s'ajoute à ce 60 minutes de C'est bon pour la santé, une revue de presse, parce qu'on voulait tâter un petit peu le pouls de l'actualité en matière de santé, et c'est présenté par peut-être la personne la plus adéquate pour le faire, Anne-Laure Janson, recherchiste de cette émission. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là. On brise un peu la glace de cette revue de presse. Qu'est-ce qui retient votre attention en matière de santé cette semaine?
Eh bien, plusieurs choses, notamment qui s'adressent aux enfants, à leurs familles, en lien avec l'arthrite juvénile d'abord, super-héros à la rescousse, c'est Jean Siagle dans la presse qui nous en parle, car malheureusement, plus de 24 000 jeunes Canadiens de moins de 16 ans souffrent d'arthrite. Et c'est justement pour faire connaître cette maladie auto-immune que la Société de l'arthrite a décidé de lancer une bande dessinée explicative sur le sujet. Alors, ils s'appellent les Mini Kids. Leur mission est d'éclairer la jeune Eleanor sur les différentes manifestations de sa maladie. L'arthrite juvénile idiopathique, une inflammation chronique des articulations. Alors il y a Derma, la spécialiste de la peau, Pump, celui du cœur, QI, celui des poumons, Gastro, des intestins et Axon, du cerveau. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les articulations? Quelles sont les différentes formes d'arthrite? Les traitements privilégiés? Voilà quelques-unes des questions auxquelles ces super-héros de la planète Mediland tente de répondre, non sans un certain humour. Alors cette bande dessinée, créée avec la maison d'édition anglaise Medikids, spécialisée dans l'éducation médicale pour enfants, s'ajoute à une collection de près d'une cinquantaine d'autres BD explicatives publiées depuis 2009 sur l'asthme, le diabète, la leucémie, l'épilepsie, etc.
Ah oui.
Chaque fois, nos super-héros, oui, s'affairent à expliquer aux jeunes le béaba de ces maladies. La dernière aventure des Mini Kids, traitant de l'arthrite juvénile, sera diffusée, je pense qu'elle l'est déjà, sur le site de l'arthrite en septembre.
Donc, Société de l'arthrite, cette BD explicative qui, je pense, en mettant de l'avant des super-héros et en mettant aussi des aventures plus ludiques, permet aussi d'apprivoiser la maladie, la douleur aussi, parce que l'arthrite juvénile, il y a de la souffrance qui va avec ça pour les jeunes.
Et d'expliquer ce qui se passe dans leur corps, effectivement, des réponses pour les jeunes.
Maintenant, un projet de Marie-Hélène Poulain?
Oui, un nouvel outil que Marie-Hélène Poulain, cette professeure que vous avez reçue en janvier dernier, qui est en développement humain et social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, LUCAT, a développé une trousse par le mois de TSA, composée de 8 outils, dont une bande dessinée, des capsules vidéo, une présentation interactive. Cette trousse comporte 3 niveaux de connaissances et préconise l'apprentissage par l'expérience. Elle s'adresse à toute personne souhaitant favoriser l'intégration des personnes autistes, que ce soit dans les milieux scolaires, les milieux de garde, les milieux d'intervention auprès de la clientèle autistique et les parents et les proches, évidemment. Un guide de l'animateur et des fiches sont téléchargeables gratuitement pour accompagner les utilisateurs de la trousse. Alors, on peut la trouver, cette trousse, sur la page de la chercheuse Madame Poulain, sur son site donc, personnel, la page Marie-Hélène Poulain UCAT. Vous la trouvez très aisément sur Google et vous pouvez télécharger gratuitement tout ça.
En janvier, elle nous avait parlé d'une plateforme qui s'appelait A pour Autre, où justement, elle donnait aussi des conseils pour de jeunes adolescents qui vivent avec l'autisme. Comment aussi tout ce qu'il y a à l'interaction sociale, elle est très forte en ce sens, Marie-Hélène Poulain. Un autre outil pour les personnes qui vivent avec l'autisme et leurs proches?
Alors, en fait, c'est plutôt un outil de promotion. L'organisme de bienfaisance Autisme sans limite invite les Montréalais à danser dans les rues pour promouvoir le film How to Dance in Ohio et soutenir la cause de l'autisme. C'est un film qui va être présenté pour la première fois au Théâtre Outremont le 5 octobre. Il présente des jeunes autistes vivant leur premier bal. Donc, participants sont invités à visiter le site entredansladance.org. On peut danser devant différents magasins de la rue Sainte-Catherine, envoyer sa petite vidéo sur Facebook, sur la page du film. Toutes les informations, Autisme sans limite, au 514-933-6218.
Parfait. C'est rigolo. Et en terminant, on a le temps, Anne-Laure, pour parler du rôle des parents, ce qui a trait au suicide chez les ados.
Oui, c'est un édito de Mélanie Dugré dans la presse ce matin qui revient sur les statistiques publiées par l'organisme Jeunesse J'écoute la semaine dernière. Donc, des statistiques révélatrices qui confirment que la souffrance n'est pas une personne. Ce rapport révélait que 22% des adolescents ont pensé au suicide. 47 n'en ont jamais parlé. 47% de ces 22%. Alors, lorsqu'on est parent, on fait quoi devant cette inquiétude, cette inquiétante réalité? Quel comportement lucide, réfléchi devons-nous adopter? Sans doute, faut-il lutter contre l'irrépressible envie d'emprisonner nos enfants, dit-elle d'abord, sous nos ailes et bâtir autour d'eux des cages de verre qui les protégeront de la cruauté du monde? Car les retenir est probablement la meilleure façon de les faire fuir. Lorsqu'ils passent un coup de vent, on pourrait peut-être dire à nos garçons que les mondes virtuels à l'intérieur desquels ils se réfugient ne sont que des mirages, que leur vie est plus fragile et précieuse que celle de ces personnages tués à l'écran et qui n'en finissent plus de ressusciter. À nos filles, on pourrait dire que les photos de silhouettes parfaites et de vies rêvées dont elles s'abreuvent sur les médias sociaux jusqu'à plus soif ne sont souvent que des façades et clinquantes vitrines derrière lesquelles se terrent des existences vides de sens. Il faut dire aussi, redire et répéter encore à nos enfants que l'échec, l'erreur qui ont si mauvaise réputation servent au contraire à rebondir et que l'imperfection, la vulnérabilité et l'humanité sont de précieux alliés. Enfin, nous devons nous abstenir de plaider l'impuissance mais nous résigner à ce que l'accès à leurs peurs, leurs angoisses et souffrances puisse nous être refusé. Et surtout, il ne faut jamais arrêter de les aimer, dit-elle.
Oui, hein, c'est ça la clé. Un sujet qui est assez intéressant, on y reviendra peut-être la semaine prochaine pour continuer à parler de la santé mentale de nos adolescents. Anne-Laure Janson, merci beaucoup pour cette première revue de presse. À la semaine prochaine. Maryse Labbé, bonjour.
Bonjour.
Maryse Labbé, vous êtes membre du comité de pilotage pour le programme intitulé « Programme Afélix » de la Fondation québécoise du cancer, également maman d'un jeune qui vit avec le cancer, qui a reçu un diagnostic à l'âge de 21 ans. Maryse Labbé, est-ce que pour vous, ça a été une façon peut-être de transcender cet événement-là, de s'impliquer dans le programme Afélix de la Fondation québécoise du cancer?
Certainement, certainement. Je vous dirais toutefois que quand mon implication a commencé dans ce programme-là, je croyais que mon fils était sur la voie de rémission. Alors, j'avais l'expérience avec la maladie, avec le cancer, avec un jeune adulte qui était dans sa période d'autonomie, qui prenait son envol dans la vie. Alors, je savais qu'il y avait des besoins et je voulais aider à trouver des outils à améliorer le soutien aussi aux adolescents et aux jeunes adultes.
Oui, et c'est important de le souligner, et c'est un groupe qui a vraiment sa place dans le sens où le soutien pour ces jeunes adultes qui vivent avec le cancer n'est pas le même genre de soutien que l'on doit accorder à des gens plus âgés de 70 ou 80. Maryse Labbé, vous l'avez réalisé en accompagnement à votre fils, et vous le dites dans une vidéo qui est sur le site cancer15-39.com, à savoir, lorsque vous avez accompagné votre fils lors de sa première hospitalisation et que vous l'avez vu avec des gens de 70 ans et plus, vous avez eu un choc.
Ah, oh, tout à fait, tout à fait. Parce que, bon, il y a les enfants qui sont malades, qui sont traités dans des hôpitaux pour enfants. Et puis, quand un jeune à 18 ans a le cancer, ben il tombe dans les hôpitaux pour adultes où l'univers de l'oncologie, c'est beaucoup des personnes âgées. Alors, effectivement, il y a un vide, là, tu sais, entre les enfants et la clientèle adulte qui est généralement plus âgés à une autre étape de la vie.
Oui. C'est quoi les besoins un petit peu plus spécifiques de ce groupe d'âge-là, ceux qui vivent avec la maladie du cancer?
Bien, premièrement, je vous dirais que les jeunes ne se sentent pas interpellés par ce qui existe. Ce ne sont ni des enfants ni des personnes âgées. Alors, ils ne se reconnaissent pas dans les services et dans l'information qui sont offerts. Ils n'ont pas les mêmes besoins, c'est pas la même approche. C'est vraiment, là, c'est à ce niveau-là, je vous dirais. Aussi, par exemple, pour un jeune, il y a des questions plus spécifiques qui se posent. Quand un jeune doit commencer des traitements de chimiothérapie, il y a des questions importantes liées à la fertilité. C'est pas le même besoin à 80 ans. Un jeune aussi qui vit ses premiers moments d'intimité à 16 ou à 18 ans va se poser des questions aussi sur sa sexualité, son image de soi, tout ça. Et aussi sur le plan financier, quelqu'un qui est un jeune parent qui a le cancer ou qui occupe son premier emploi, bien, des fois, il n'y a pas toute la couverture d'assurance ou encore la sécurité financière qui va avec ça. Alors, on donne vraiment de l'information qui est très, très pratique sur ces questions-là qui sont spécifiques aux jeunes, mais je vous dirais que c'est surtout dans la façon d'aborder les choses. Nous, ce qu'on pense, c'est que les jeunes n'ont pas la même vision. Ils doivent se retrouver, ils doivent se reconnaître dans les outils, ils doivent savoir que ça s'adresse à eux.
Ouais.
Alors, c'est vraiment, je vous dirais, c'est ça. Il y a un caractère spécifique par rapport à certains sujets qu'on aborde, mais c'est surtout dans le ton, l'angle, où vraiment, là, on tient compte de leur réalité et de leurs besoins particuliers.
Maryse Labbé, il y a aussi un caractère spécifique à s'occuper, ben, pour les proches, là, s'occuper d'un jeune adulte qui vit avec le cancer. En tant que maman d'un jeune adulte, on veille, on est là pour accompagner, mais on ne peut pas prendre les décisions finales, que ce soit sur les traitements ou d'autres décisions bien importantes. Comment le rôle de soutien peut changer?
Bien, écoutez, pour un proche d'un jeune qui est atteint de cancer, évidemment, c'est un choc. Puis, ce qui est important quand c'est un jeune adulte, c'est de lui laisser son autonomie. Alors, c'est un rôle d'accompagnement qu'on a, mais comme toutes les familles ou comme tous les aidants qui vivent le cancer à travers leurs proches, ben, on vit évidemment un sentiment d'impuissance, on vit de l'inquiétude, tout ça. Mais ce qui est important, c'est pour ces jeunes-là, c'est de préserver leur autonomie, de respecter leurs choix, de respecter leurs limites. Et avec les jeunes aussi, ben, c'est de respecter aussi leur silence, hein, particulièrement les jeunes garçons.
Ouais.
Alors, c'est important qu'ils soient bien entourés, qu'ils sachent qu'on est là. C'est important qu'on écoute leurs besoins, puis qu'on tente dans la mesure du possible de bien les outiller.
Oui. Vous avez dit quelque chose d'intéressant dans cette vidéo qui est publiée sur le site du programme à Félix. C'est qu'il faut d'abord prendre soin de soi en tant que proche aidant d'une personne qui vit avec le cancer.
Oui, effectivement. Parce que, bon, pour être capable d'accompagner quelqu'un, il faut quand même rester solide, il faut avoir les idées claires, il faut intervenir de la bonne façon. Alors, être un aidant, c'est pas facile parce que ça vient nous chercher émotivement, parfois aussi ben, physiquement, il y a de l'épuisement, tout ça. Alors, les aidants doivent aussi être bien entourés eux-mêmes. Là.
Oui.
C'est important de compter sur tout le réseau. Il y a un entourage autour de ça, mais c'est important de bien intervenir. Tu sais, on ne sait pas toujours quoi dire, quoi faire, hein, quand on a une connaissance, une personne de notre entourage là, qui est touchée par le cancer. Alors, sur le site, on donne des outils pour ça, des trucs. Oui. Quoi dire, quoi faire, quels sont les trucs pour accompagner. Mais c'est important aussi de connaître l'ensemble des ressources qui sont offertes dans le milieu par des organismes spécialisés. Alors, sur le site, on donne aussi une liste des différents organismes qui offrent des services spécifiques aux adolescents ou aux jeunes adultes, ou même qui offrent des services spécifiques à certains types de cancers.
Oui. Le groupe de soutien permet aussi aux personnes qui vivent avec le cancer, à ces jeunes adultes toujours, de briser un petit peu l'isolement qui est lié à la maladie. On entend des témoignages en ce sens.
Oui. Un jeune qui fait face au cancer... Ce qu'on entend souvent, c'est qu'il ne se sent pas réellement compris. Mais ce qu'on entend aussi, c'est que les jeunes qui ont eu l'occasion de rencontrer d'autres jeunes qui sont passés par la même situation, qui ont eu essentiellement le même type de cancer ou qui font partie du même groupe d'âge, c'est vraiment ce qui fait du bien. Alors, à travers le portail, on met en lumière des groupes d'entraide qui existent. On a des capsules vidéo où il y a des jeunes qui expriment aussi ce qu'ils vivent. Et puis, ça contribue vraiment à favoriser une meilleure compréhension, à briser cet isolement-là.
Oui.
La Fondation québécoise du cancer offre aussi un service de jumelage, justement, un jumelage téléphonique. Alors, une personne qui demande ce jumelage-là va être mise en contact avec une personne qui est passée par là. Donc, même type de cancer, ou à peu près le même groupe d'âge. Fait que la personne atteinte peut en bénéficier, mais le proche aussi. Donc, s'il y a des parents, des conjoints qui accompagnent une personne qui vit le cancer, ben ils peuvent communiquer avec la Fondation et on va leur offrir un jumelage avec un autre proche qui a déjà vécu cette situation-là. Alors, c'est des échanges qui sont intéressants.
Ce programme Afélix est venu au monde par le souhait de ce jeune garçon nommé Félix. C'était un souhait qu'il a lancé à sa famille, à ses parents, après son départ, de créer cette fondation-là. C'est mené à bout de bras par des bénévoles comme vous, Maryse Labbé.
Oui, effectivement. Effectivement. En fait, Félix Delorier-Allé, il a eu un diagnostic de cancer en 2009. Malheureusement, il en est décédé deux ans plus tard. Et avant son décès, il avait enregistré une vidéo en disant « Ne faites pas juste en parler, posez des gestes concrets pour faire une différence dans la vie des jeunes atteints de cancer. » Alors, ses parents ont souhaité respecter sa volonté et avec des proches, ils se sont unis à la Fondation québécoise du cancer pour mettre sur pied des services vraiment adaptés à ce groupe d'âge-là. Alors oui, c'est un groupe de bénévoles qui pilote le programme Afélix, mais avec le soutien fantastique du réseau de la Fondation québécoise du cancer.
Oui.
Parce qu'ils sont partout au Québec.
Et c'est tellement un bel hommage à ce jeune homme-là, une belle façon de souligner sa mémoire. Programme Afélix de la Fondation québécoise du cancer, vous pouvez aller sur le site cancer15-39.com. Il y a une foule de services, de ressources, de trucs qui est présentée. Merci, Maryse Labbé, de nous en avoir parlé aujourd'hui.
Merci à vous.
Au plaisir. Rêver de créer la plus grande communauté qui s'intéresse à la lecture, c'est le souhait quand même plutôt audacieux de Julie Provencher. Bonjour Julie, on vous entend rire.
Bonjour Madame Paquette.
Belle audace quand même, je vous présente, vous êtes enseignante, consultante en éducation, auteure conférencière et fondatrice de cette plateforme Pouvoir de lire, également maman. Quand même de rallier des personnes qui ont ce désir de lecture, qui ont ce goût du livre-là, c'est quand même une belle audace, comme je le disais. Est-ce que vous y arrivez et comment vous y arrivez, Julie Provencher?
Bien, vraiment, d'abord, c'est une passion, la lecture. Moi, je suis maman de deux garçons, puis quand ils sont venus au monde, je trouvais que les statistiques étaient contre eux. Vous savez, là, vraiment, les garçons, si on regarde les études internationales et tout, puis là, je me disais, comment moi, comme parent de 0 à 5 ans, puis même après, quand ils sont au primaire, je peux les aider. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, que ce soit de l'information gratuite, en ligne, qu'on peut juste taper, s'informer. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu comme un scrapbooking. Mm-hmm. Vous savez, il y en a qui font ça. Ben moi, à chaque fois que je trouvais des adresses intéressantes, des trucs, des liens, je le collais sur ma plateforme Pouvoir de lire. Puis, une des choses qui m'a aidée beaucoup, c'est que je suis retournée à l'école pour faire ma maîtrise en accompagnement en lecture de 0 à 5 ans. Puis, présentement, je suis au doctorat mm-hmm. aussi. Donc, je continue de lire sur ce sujet-là. Puis, je me dis, ben peut-être que le parent qui est chez eux puis qui cherche de l'information, ben il va pouvoir trouver quelque chose sur ma plateforme. Et puis c'est un partage, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des choses puis je les ajoute. Donc ça part de là, vraiment ça part de là.
Julie, Pouvoir de lire s'adresse peut-être davantage aux enfants, mais aux adultes aussi qui aimeraient aiguiser leur goût de la lecture.
Je dirais que ça s'adresse davantage aux parents, aux éducateurs ou aux enseignants parce que c'est des trucs à mettre en place auprès des enfants.
Mm-hmm.
Donc, il y a par exemple une section où on peut trouver des bricolages qui allient la lecture et puis faire de l'art plastique. Il y a des places où justement, je donne des projets qui se passent dans les salles de classe parce que des fois, on cherche de l'inspiration. Alors, c'est comme si on a un adulte qui gravite autour d'un enfant qui cherche un petit peu d'inspiration, ben il pourrait en trouver sur Pouvoir de lire.
Moi, je suis particulièrement intéressée, Julie Promancher, à vos trucs pour les jeux en auto pour favoriser les apprentissages en lecture. Quels sont ces trucs-là en particulier?
Ben, dans le fond, il y a plusieurs jeux que je faisais avec mes enfants, mais par exemple, on sait que le vocabulaire, c'est une des facettes qui fait qu'un enfant va mieux apprendre à lire. Par exemple, si on connaît déjà le mot, on va être capable de plus facilement le décoder, puis même de comprendre ce qu'on lit. Alors moi, à la maison ou en auto, ce qu'on fait, c'est justement un petit jeu comme ça où je dis, OK, je vous donne un thème. Donnez-moi 10 mots de noms d'oiseaux. Puis là, ils doivent trouver des noms d'oiseaux. Puis ça fait que la famille participe, on élargit le vocabulaire de l'enfant. Puis je le sais qu'un jour, ces mots-là, ils vont les trouver en lecture. Donc, c'est des petits jeux comme ça par rapport au vocabulaire. J'en avais un autre aussi. Vous savez, souvent, les professeurs demandent « Que va-t-il se passer quand on lit des histoires? » Ben moi, j'aimais beaucoup inventer une situation, un début de situation, puis dire ensuite « OK, que va-t-il se passer? » Et là, l'enfant devait, à partir des indices qu'on lui avait donnés, à partir de ce qu'il comprend, lui, de l'histoire, ben prédire. Puis c'est une excellente stratégie qu'on peut réinvestir en lecture par la suite.
Donc, oui, c'est une façon d'introduire la lecture, le plaisir des mots, la découverte, d'attiser la curiosité dans le quotidien des enfants et des parents aussi.
Ah oui. Puis vous savez, pendant, par exemple, l'heure des repas, on pense pas qu'on peut intégrer de la lecture à l'heure des repas. Mais moi, à un moment donné, ben les enfants étaient maternelle, première année, puis on était tous dans le décodage, ces choses-là. Puis là, je me disais, il faut qu'ils apprennent les lettres, les sons. Alors, j'ai juste fait un apron avec les lettres dessus, A, B, C, D, juste ça.
Mm-hmm.
Puis je l'ai plastifié. Puis quand on mangeait, parfois, je disais, oh, de la salade. Ça commence par quelle lettre, ça? Salade. Puis là, ben ils pouvaient trouver. Puis c'était juste comme ça que, puis c'était un jeu, là, c'est pas rien de... Puis on le faisait pas tous les jours, mais c'est peut-être une petite chose qui fait qu'un enfant, à un moment donné, bien...
C'est un déclencheur, oui.
Tout à fait.
Julie Provencher, on fait comment lorsque notre enfant rencontre des difficultés d'apprentissage en lien avec la lecture?
Bien, je dirais que d'abord, l'approche des parents, si on regarde les recherches, là... sur l'éveil à la lecture ou l'apprentissage de la lecture, l'approche des parents est très, très importante. C'est-à-dire que faut avoir une approche où on encourage l'enfant. Parce que c'est difficile. Apprendre à lire, c'est une des choses les plus difficiles qu'un enfant a à faire. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire seul non plus, parce que si on mettait un enfant de 2 ans dans une belle bibliothèque, il n'apprendrait pas à lire. Donc, ça prend un lien entre l'enfant et un adulte et le livre. Hein? On n'a pas le choix d'avoir ce genre de triangle-là. Alors, mm-hmm. le parent doit être facilitant, doit être, ben, tu vas voir, je vais t'aider, ou bien, je sais pas si vous, Madame Paquette, vous connaissez la lecture perroquet. Connaissez-vous ça?
Non, mais j'aimerais bien apprendre.
La lecture perroquet, par exemple, c'est qu'un enfant lit, puis on sait qu'au départ, c'est difficile. Donc, il va probablement hésiter, il va peut-être se tromper, il va lire sa phrase du mieux qu'il peut. Et là, le parent va dire, OK, maintenant, je vais faire le perroquet. Et il va relire en arrière de lui.
La même phrase.
La même phrase. Puis là, l'enfant peut voir que, ah, oh, c'était pas tout à fait ça. Alors, c'est des façons comme ça, des fois, qu'on peut mettre en place. Moi, je dis aux parents, essayez dans votre attitude d'être encourageant. C'est comme n'importe quoi quand on commence quelque chose qui est difficile, de valoriser et aussi d'être un modèle.
Oui.
Un modèle, pas nécessairement seulement de lire dans son coin, mais de lire à l'enfant, de continuer à lui lire, même s'il est en train d'apprendre la lecture par lui-même. Parce que ces modèles-là, c'est vraiment important.
Et cette méthode perroquet est une façon de ne pas souligner les erreurs,
oui,
mais simplement de démontrer la bonne façon de lire. C'est aussi une façon de rendre ça le fun.
Oui.
Et j'ai l'impression que parfois, l'apprentissage de la lecture, peut-être, que ce soit à la maison ou à l'école, n'est pas synonyme de plaisir pour l'enfant. Et c'est là qu'il y a un écueil. Il y a tout l'aspect dans le choix des livres que l'on achète ou qu'on va chercher à la bibliothèque pour notre enfant, pour être vraiment une amoureuse des livres pour enfants. Je constate parfois dans la chambre des enfants de mes amis, les livres sont ennuyants et je les comprends de dire, bah, c'est peut-être pas le moment préféré lorsque c'est rendu le conte ou bon, l'histoire avant le dodo. Comment on choisit un livre intéressant, le fun pour notre enfant?
Bien, je dirais que d'abord, il y a deux types de livres qui est important que notre enfant soit en contact. Le premier type de livre, c'est les genres de livres qu'on va lui lire à voix haute. Donc, on peut choisir n'importe quel thème. Habituellement, on va y aller avec les intérêts de l'enfant. Souvent, moi, je demande à la bibliothécaire c'est quoi ses nouveautés pour le groupe d'âge à lequel je vais lire. Mais la lecture à voix haute, on peut choisir des livres qui sont beaucoup plus difficiles parce que c'est nous qui allons le lire à l'enfant.
Mmh.
On va pouvoir en profiter pour discuter avec l'enfant. Et le deuxième type de livre qui est important quand les enfants arrivent, là, maternelle, première, deuxième, troisième, c'est des livres qui vont avoir une difficulté qui va être vraiment moindre parce que le vocabulaire va être un petit peu simplifié. Il va avoir moins de phrases pour que l'élève puisse lire de façon autonome. Donc, à partir de ça, à partir de ces deux catégories de livres-là, ben moi, je dis d'écouter vos enfants, de regarder leurs intérêts. Moi, mon fils, il faisait des blocs Lego. Ensuite, il a écouté Star Wars. Puis maintenant, il est rendu à 10 ans, puis il lit du science-fiction.
Donc, en étant à l'écoute aussi, on repère les intérêts. On va aller chercher des livres qui peuvent plaire à nos enfants et à ceux qui les intéressent, finalement.
Oui.
Julie Provencher, je le rappelle, vous êtes enseignante consultante en éducation auteur, conférencière, auteur de ce livre « Trucs de lecture », c'est aux éditions CARD. Et vous êtes derrière la plateforme pouvoirdelire.com. On invite, bien sûr, les parents à y aller pour une foule de trucs et de conseils en lien avec l'apprentissage de la lecture. Merci, Julie.
Ah, oh, ben merci beaucoup. Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Santé.
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 Santé. C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. J'espère que vous allez toujours bien. Tout à l'heure, nouvelle chroniqueuse, je vous le mentionnais tout à l'heure, s'ajoute à l'équipe France Cardinal Remette. Elle nous parle de ce sujet qui peut être assez confrontant. Bon, il y a plusieurs personnes âgées qui y seront confrontées, également leurs proches, hein, parce que c'est souvent une décision familiale à savoir est-ce que notre parent va dans une résidence pour aînés ou pas? Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui motive également ce choix et comment on s'y prépare parce que cette expérience est peut-être inévitable, mais on a envie de la transformer en une expérience qui est positive. Et vous allez le voir, le saisir, ça passe beaucoup par la préparation de la famille et de la personne âgée, bien sûr. Mais tout d'abord, un sujet qui s'adresse également à des personnes aînées, mais peut-être davantage à leurs proches, à savoir un service d'orthophonie qui s'offre du côté de l'Estrie. Et il y a Claudine Charbonneau au bout du fil pour nous en parler. Claudine Charbonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste du côté de l'Association des accidentés cérébrovasculaires et traumatisés crâniens de l'Estrie. Et là, pour nous parler d'un projet pilote qui existe depuis avril 2016 et qui s'intitule « À présent », c'est une façon d'accompagner les proches aidants qui vivent auprès d'une personne qui a perdu les moyens ou le moyen de communiquer suite à un AVC. Pourquoi avoir visé la clientèle des proches ou la population des proches aidants, Claudine Charbonneau?
En fait, c'est des gens qui ont besoin souvent de beaucoup d'aide parce qu'une fois que la personne qui a une difficulté de communication retourne à domicile, ils ont reçu des services au public, des super services, mais ils se retrouvent un petit peu démunis là, suite au choc de l'AVC et tout ça. Donc, nous, on essaie de les aider là-dedans, là, puis la communication est partout, dans toutes les situations. Donc, on essaie de rendre leur quotidien plus facile puis aussi plus agréable.
La communication, elle est partout et ce projet pilote, à présent, est une façon de souligner que pour une personne de 30 ans, de 45 ans, bon, la communication, c'est important, mais pour une personne de 70 ans et plus, également, c'est important de partager son expérience, de continuer à parler de ses intérêts et de ses passions et d'entrer en communication avec les proches.
Tout à fait.
C'est une façon aussi peut-être de mieux saisir pour le proche aidant la nouvelle réalité à laquelle est confronté, que ce soit le conjoint ou la conjointe, suite à cet accident.
Effectivement, nous, on a une partie d'enseignement, de stratégie, de communication, mais il y a aussi souvent une partie de conseils, d'écoute, parce que les gens vivent des situations nouvelles, inconnues. Donc, on essaie un petit peu de les guider au niveau communicationnel là-dedans, comment ils peuvent aider leurs proches, parce qu'on communique à deux. Donc, même si la personne a perdu des moyens pour communiquer, ben nous, comme interlocuteurs, on a aussi un travail à faire dans ce sens-là pour l'aider.
Oui. Si je comprends bien, Claudine, au fond, le service du projet pilote à présent s'adresse à des duos.
On les voit toujours en duo parce que des stratégies s'adressent plus aux proches, mais sont appliquées au duo. Donc, il faut qu'ils soient ensemble pour les pratiquer. Il faut qu'ils soient ensemble parce qu'on discute de toutes sortes de sujets. Donc,
ouais. Vous êtes amené à rencontrer plus souvent qu'autrement des couples ou parfois c'est une fille avec sa mère ou un fils avec sa mère. À quoi ressemblent les duos?
C'est souvent des couples, mais en fait, le service est ouvert à tous les proches là, tant que la personne, au fond, ils passent du temps ensemble. Là. Au fond, c'est ça qu'on essaie d'aider, de faciliter le quotidien. Puis c'est souvent des conjoints, mais ça peut être des petits-enfants, ça peut être des amis,
J'imagine que vous voyez au fil des services des relations assez uniques. C'est, bon, déjà, la relation, elle est là, elle existe, que ce soit un lien familial, un lien amoureux, mais par cette aide qui est apportée, parce qu'il y a eu un événement déclencheur qui est parfois malheureux, mais il y a quand même une relation différente là, qui s'installe entre ces deux personnes-là.
Mm-hmm. C'est particulier d'assister à ça parce que nous, on se rend à domicile. Hein? Donc, on est vraiment proche de la réalité, on est proche des gens, puis on entre un petit peu dans leur intimité, tu sais, on essaie de le faire avec douceur, mais je veux pas, on reste qu'on est chez eux. Donc, ces relations-là, ils vivent des beaux moments, puis ils vivent des difficultés aussi, puis on est là pour, justement, des fois, on aborde des sujets qui les touchent ou qui sont proches d'eux, s'ils veulent, par exemple, vendre leur maison, mais ils ont beaucoup de choses à discuter, puis des fois, c'est des sujets qui sont difficiles ou complexes, donc on les accompagne aussi là-dedans.
Oui. Okay. Quel genre d'outils de communication vous mettez de l'avant avec les duos, Claudine?
C'est vraiment différent dépendamment des difficultés de la personne. Donc, on peut, quand on a une aphasie, on peut avoir de la difficulté à comprendre, on peut avoir de la difficulté à s'exprimer ou les deux. Puis, dépendamment de ma difficulté, dépendamment des stratégies qui sont déjà en place, dépendamment du proche, moi, je m'adapte beaucoup à ce qui se fait déjà. Mais si vous voulez un exemple, en fait, on utilise beaucoup du support écrit. Souvent, c'est très, très utile pour se retrouver dans la conversation, savoir où est-ce qu'on était rendu, puis aussi s'y référer. Parce que si moi, j'ai de la difficulté à m'exprimer, mais je peux utiliser la lecture, c'est plus facile de me référer à quelque chose qui a été écrit puis qui est devant moi que des mots qui ont été dits il y a 10 minutes puis que je ne peux pas répéter.
T'sais. Oui. L'aphasie, vous me corrigez si je me trompe, c'est une difficulté à nommer, mais on sait ce que l'on veut dire, on comprend ce qui se passe dans notre environnement, mais on n'arrive pas à avoir les mots pour l'exprimer.
Ça dépend des types d'aphasie. Ce que vous me décrivez, c'est un type d'aphasie, donc avoir de la difficulté à s'exprimer. Des fois, j'ai aussi de la difficulté à comprendre ce qui se passe autour de moi. Des fois, c'est les deux. Ça dépend beaucoup de l'accident vasculaire que j'ai eu, de l'endroit dans le cerveau qui a été touché, de la récupération, de l'âge au moment où c'est arrivé, tout ça.
OK. Maintenant, est-ce qu'il y a une sélection des duos? Est-ce que, bon, il y a certaines priorités ou comment vous décidez quel duo vous allez suivre?
Bien, on est un service assez nouveau, donc en ce moment, on n'est pas, on n'a pas des listes d'attente infinies, là, donc on invite les gens surtout à nous appeler, puis, tu sais, dépendamment des critères, il y a des gens qui peuvent peut-être pas recevoir le service à domicile, mais il y a d'autres choses qu'on peut leur offrir. Donc, on les invite plus à nous appeler pour qu'on regarde avec eux qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Mais en gros, ça s'adresse aux proches d'aînés. Donc,
Et cet aîné doit avoir vécu un AVC et avoir des problèmes liés à la communication suite à cet accident.
Ça peut être un AVC, ça peut être un trauma crânien aussi.
Okay.
Les traumatismes crâniens peuvent avoir des difficultés communicationnelles là, suite à ça.
Est-ce que, bon, c'est tout nouveau comme projet pilote à présent, créé, je le rappelle, en avril 2016. Est-ce que, Claudine Charbonneau, vous êtes déjà en mesure d'évaluer les impacts du programme? C'est-à-dire, est-ce que les personnes suivies, proche aidant et sa personne aînée, la personne qui l'accompagne, vous avez déjà pu constater des progrès significatifs?
On voit des progrès au niveau micro, là, dans le sens dans les thérapies avec les diades, les duos, mais j'ai pas encore rempli le mot m'échappe, là. En fait, le rapport de mi-projet est pas fait encore, là, fait que j'ai pas de données à vous montrer. Par contre, c'est sûr que au niveau de la relation, on en voit toujours là, au jour le jour quand on fait les interventions, mais
oui. J'imagine aussi que bon, le proche aidant que vous aidez, que vous encadrez, Claudine, devient un peu un expert de la personne qui l'accompagne, mais cette personne-là, le proche aidant, a déjà des limites, que ce soit un petit peu d'impatience, que ce soit une incompréhension du problème. Comment vous l'aidez à mieux saisir la situation et dans quoi il s'engage?
On prend la personne où elle est rendue dans son processus.
Mm-hmm.
Donc, une personne qui comprend pas encore c'est quoi un accident vasculaire, ben on va passer avec elle à travers des schémas, des dessins, on va essayer d'y expliquer c'est quoi les conséquences, qu'est-ce que ça crée comme difficulté. Il y a aussi tout souvent une question de récupération. Donc, ils veulent savoir si leur proche va redevenir comme avant. C'est
souvent
quelque chose qu'on entend. Donc, on explique comment la récupération se fait, c'est quoi... qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, puis tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand la personne est pas très loin dans son processus.
Oui.
Mais des fois, plusieurs années plus tard, ils ont compris plus de choses, ils ont lu beaucoup, donc ils sont plus au courant. Puis dans ce cas-là, c'est souvent de faire des deuils. Donc, de faire, dépendamment des difficultés de la personne, mais la personne, elle sera pas nécessairement comme avant. Donc,
oui.
C'est souvent ça qui discute avec nous. Puis nous, on essaie de les accueillir là-dedans. Là,
donc, parfois, l'AVC ou le traumatisme crânien n'est pas récent et cet accident ou cet événement s'est créé il y a déjà plusieurs années.
Oui, puis le service, en fait, c'est principalement là, nous, qu'on a un impact. Parce que plusieurs années, suite au retour à domicile, c'est là que les gens, ils ont oublié ce qu'ils ont vu, ils savent plus trop, leur situation a changé. Donc, c'est là qu'on arrive, on clarifie des choses, on remet des stratégies en place. Donc, c'est là qu'on a vraiment un impact important.
Oui. Il y a un deuxième volet à ce programme à présent, c'est les conférences. En quoi sont liées? Qu'est-ce que vous mettez de l'avant là, dans le cadre de ces conférences?
Les conférences s'adressent plus aux proches de personnes qui ne savent pas s'ils veulent s'embarquer dans un suivi personnalisé, mais ils aimeraient ça en savoir plus. Donc, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à travers les différentes stratégies. On les illustre, on démontre, on pratique un peu. On essaie de leur donner un coffre à outils là, minimal qu'ils peuvent rapporter avec eux à la maison.
Mm-hmm.
Puis, si après ça, ils veulent plus de services personnalisés, bien, ils peuvent nous rappeler là, pour qu'on les voit à domicile. Mais c'est comme une porte ouverte là, sur un peu des solutions.
Et pour des gens qui, peut-être, ne sont pas prêts à faire entrer une inconnue, en l'occurrence vous, Claudine Charbonneau, mais une orthophoniste dans leur domicile et de s'ouvrir et d'ouvrir aussi la relation là, à un professionnel de la santé.
Bien, on peut les voir si c'est le fait d'être à domicile qui les rend mal à l'aise. On peut toujours les voir à nos bureaux, ça se fait facilement. Donc, des fois, ça crée un petit peu... la relation se fait un peu plus tranquillement puis plus progressivement dans le bureau. Puis aussi, on les invite à discuter au téléphone avec nous ou parler avec un intervenant de l'acte avant. Donc, des fois, le lien est déjà créé avec eux. Puis, on va pouvoir faire une rencontre à plusieurs. Ils peuvent juste à venir passer, me dire bonjour, savoir de quoi j'ai l'air, puis...
Ouais. De créer le lien, finalement.
Oui,
ça s'adresse, puisque l'Association des accidentés cérébrovasculaires et traumatisés crâniens est en Estrie, est-ce que ça s'adresse qu'aux résidents de l'Estrie, Claudine?
Oui, ça s'adresse à toutes les personnes qui résident en Estrie. C'est toutes les MRC, là. Donc, vous pouvez habiter à Lac-Mégantic ou à Magog, là, puis vous pouvez recevoir des services.
Pour plus de détails, orthophonie@actestrie.com. Claudine Charbonneau, vous êtes orthophoniste et vous étiez là pour nous parler de ce projet pilote à présent. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Cardinal Remède, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous retrouver parce que c'est pas la première fois que l'on se parle, nous deux. Vous étiez venu il y a quelques semaines, moi, de ça, pour nous parler de votre livre « Quand la vie se fragilise », un guide pour vous et vos proches aidants. C'est publié chez Multimonde. Et ben, on a eu envie de réitérer l'expérience. Et vous êtes là maintenant à titre de chroniqueuse dans le cadre de « C'est bon pour la santé ». Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, je le disais tout à l'heure, peut être assez confrontant pour les familles, parfois inévitable. Et ça va toucher beaucoup, beaucoup de personnes, notamment dans une société vieillissante comme le Québec, à savoir est-ce que notre parent, notre mère, notre père doit aller dans une résidence pour personnes aînées. Qu'est-ce qui motive ce choix-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des enfants se disent « je pense qu'on est rendu là ».
Je pense que c'est la détérioration et la fragilité de la santé de la personne. Il y a des changements qui surviennent. On a même vu des situations où les enfants ne demeurent pas à proximité de leurs parents et les visitent pour les vacances et tout à coup se rendent compte qu'il y a eu une dégradation. Par contre, du côté du parent aîné, ça peut être un choc d'être questionné par ses enfants et de se faire dire « je pense que ce serait le temps de penser à aller en résidence ». Alors, je pense qu'il faut prendre ça avec un bémol parce que ça nécessite une grande réflexion, puis on n'a pas à réagir là, instantanément. Je pense qu'il faut réfléchir comme il faut. C'est une délicate question et délicate en ce sens qu'on envisage alors une perspective de changement de milieu de vie.
Oui.
Et ça fait peur.
Et de routine également et d'environnement.
Tout à fait. Alors, l'inconnu fait peur à l'être humain et c'est normal. Alors, est-ce qu'il est possible de faire face à cette nouvelle réalité-là pour la transformer en une expérience plus positive? Bien, certainement. Et comment? Bien, en se préparant, premièrement, en la percevant ou en la visualisant plus comme une occasion d'échange avec ses enfants, de la part de l'aîné, plutôt qu'une menace qu'il faut à tout prix éviter.
Ouais.
Alors ça, c'est important. Puis même, je vais en parler peut-être plus en détail un peu plus tard, mais il faut se préparer même avant de perdre ses facultés à cette éventualité-là et exprimer à ses proches ses souhaits, hein, comment on envisage ça pour le futur. Alors, j'avais préparé un petit exercice, Marianne, de petites questions qu'une personne aînée peut se poser pour mieux saisir pourquoi les enfants abordent cette question-là. Alors, elle pourrait se demander, mais pourquoi cette question-là survient maintenant? Alors, moi, comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je suis ouvert ou je suis plutôt paniquée? Puis pourquoi? Aussi se questionner sur sa santé elle-même. Comment ma santé évolue-t-elle là, dans le moment? Est-ce que j'ai des signes de fragilité? Par exemple, est-ce que j'ai fait plusieurs chutes dernièrement? Est-ce que ma sécurité est menacée? Est-ce que ma mobilité n'est plus la même? Est-ce que j'ai de la difficulté à préparer mes repas, à me laver moi-même, à me mobiliser dans mon appartement?
La confusion aussi. Est-ce que je suis confus? Je me sens perdue?
Oui. Tout à fait. Problèmes de mémoire qui peuvent survenir. Maintenant, les capacités sensorielles, on n'en parle pas si souvent que ça, mais elles sont présentes chez les aînés. Des difficultés à entendre, des difficultés à voir, hein, la baisse visuelle, tout ça qui peut survenir, on le sait. Alors, il y a aussi tout l'aspect du réseau social. Il y a des gens qui sont très, très isolés dans leur domicile. Ils vont faire aussi des oublis. Moi, je l'ai vécu avec ma mère, où un matin, elle m'a dit, écoute, je me suis réveillée, puis j'avais oublié de verrouiller ma porte pendant la nuit. Alors ça, c'est inquiétant.
Il y a l'inquiétude de l'entourage. Aussi, souvent, c'est un moteur. Je m'inquiète pour toi, papa, maman, je pense que tu serais mieux encadré. Le cheminement serait préférable dans une résidence plus surveillée. Mais il y a différents types aussi de résidences, je pense, France. Oui. Et ça, il faut quand même s'y attarder. C'est un questionnement à se poser aussi.
Oui, parce que est-ce que c'est la solution ou l'option la plus appropriée pour la personne? Peut-être, puis peut-être pas. Hein, ça dépend. Parce que si on s'adresse aux résidences privées, bien, les résidences, évidemment, offrent une panoplie de services, d'activités de toutes sortes. Et elles s'adressent en général aux aînés autonomes, semi-autonomes, mais peuvent aussi offrir des services, des soins à la carte pour des gens qui commencent à avoir certaines pertes. Il y a aussi des résidences qui proposent des unités vraiment là, qui offrent des soins plus spécialisés, entre autres pour les problèmes cognitifs ou pour des problèmes de santé multiples complexes. Alors, il y a des unités, il y a des soins plus intensifs qui sont offerts. Mais il faut compter en moyenne, là, j'ai été voir les chiffres, là, pour des gens qui sont autonomes, semi-autonomes, en moyenne 2 200 par mois comme coût. Et pour des gens qui nécessitent des soins plus intensifs, on parle de 3 500 par mois en moyenne, mais ça peut aller plus haut que ça.
Il faut avoir le budget aussi.
Oui, c'est un autre élément à considérer, effectivement.
Donc, lorsque vous parliez, France, et ça, c'était assez judicieux de dire, il faut s'y préparer, peut-être même y réfléchir avant d'avoir perdu certaines facultés. Il faut aussi, du point de vue financier, y penser avant et prévoir ce passage-là.
Moi, je crois que l'idéal aussi, c'est de se familiariser avec les ressources qui existent. Alors, on sait qu'il y a les CLSC dans chacun des quartiers. Alors, il y a des organismes communautaires. Il y a aussi des services privés à la carte qui peuvent être achetés, qui sont peut-être moins coûteux que d'aller en résidence. Alors, c'est l'ensemble. C'est quand on rassemble tous ces services-là ensemble qu'on peut maintenir la personne. Hein. On dit toujours le domicile, le premier choix. N'empêche que ça, quand on va en résidence, le CLSC peut s'y présenter aussi. Hein? Quand c'est une résidence privée, on peut avoir les services du CLSC également. Il ne faut pas penser que c'est impossible.
Oui.
Alors, voilà pour ça. Puis, il y a la question, les gens vont dire, il y a quelque temps, on dit ma fille veut me placer dans un centre d'hébergement. On entendait ça. Mais les centres d'hébergement de longue durée, maintenant, s'adressent vraiment uniquement aux problèmes de santé très complexes. Puis on n'entre pas dans un CHSLD ou centre d'hébergement de longue durée comme ça. Hein. Ça prend vraiment une évaluation médicale, évaluation d'une équipe du CLSC très souvent ou d'un centre hospitalier où vraiment la personne est en complète perte d'autonomie, a besoin d'une intensité de soins importante à tous les jours. À ce moment-là, ce sera admissible un CHSLD. Mais autrement, il existe d'autres sources intermédiaires, alternatives aussi, entre la résidence privée et le CHSLD qui sont disponibles. Et ce sont les intervenants des CLSC, entre autres, et des centres de santé qui pourront guider la personne.
France, à qui revient le choix lorsque la personne aînée a perdu beaucoup de facultés ou est très malade?
Le choix lui revient. Maintenant, il y a toujours la notion d'aptitude et d'inaptitude. Alors, quand la personne est apte à prendre ses décisions, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'incapacité à prendre soin d'elle-même et de gérer ses biens, ses affaires, à ce moment-là, c'est à elle que revient la décision. Tant qu'il n'y a pas un programme de protection d'ouvert, c'est à l'adulte, quel que soit son âge, à prendre ses décisions, malgré tout.
Okay.
Maintenant, j'aimerais aborder la notion un peu d'inaptitude. Qu'est-ce que ça signifie? C'est souvent confus pour les gens. Alors, l'inaptitude, je le répète, se définit par l'incapacité, dans le fond, de prendre soin de soi et d'administrer ses biens, mais elle peut être partielle ou totale, temporaire ou permanente.
Ah oui.
Et peut-être le résultat d'un grave accident, d'une maladie dégénérative, d'une maladie mentale, ou problème de santé mentale, devrais-je dire, d'un accident vasculaire cérébral, entre autres. Alors, ça peut être des problèmes d'Alzheimer, il y a différents problèmes là, qui peuvent survenir. Alors, c'est pourquoi on dit que les gens devraient se préparer à l'avance et rédiger leur mandat de protection, mieux connu sous le nom de mandat en cas d'inaptitude. Alors, mais présentement, on l'appelle mandat de protection, c'est le vrai terme. Alors, qui peut rédiger son mandat? Bien, la personne elle-même, à l'aide d'un formulaire, là, peut le rédiger, mais il doit être signé par deux témoins qui ne sont pas visés par le mandat lui-même. Okay. Alors, des gens extérieurs, ça peut être un voisin, un ami, bon. Et il y a l'autre façon qui est plus formelle, c'est d'aller voir un notaire. Il y a des avocats aussi qui peuvent le faire, mais le plus souvent, c'est le notaire, là. Qui est en mesure aussi de le conseiller, la personne, oui. De l'aider à formuler clairement ses volontés. Alors, lui conserve l'original et remet une copie à la personne et il va, tout comme l'avocat, inscrire le document dans un registre officiel prévu à cet effet.
Oui, et ça peut être assez utile lorsqu'il est temps d'aborder ces questions un petit peu plus délicates. D'ailleurs, on remercie votre fils, France Cardinal Raymette, qui est notaire,
oui,
hein, je
François,
pense.
François Raymette, oui.
Et qui vous a donné un petit coup de main. En terminant, il nous reste à peine une minute, France. Quand cette décision-là rend le climat familial un petit peu tendu, plus confus, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent servir de médiateurs à qui on peut se référer pour nous aider à réfléchir, orienter les discussions? Vous parliez tantôt du médecin. Le médecin de famille peut servir à ça. Il y a peut-être un notaire, le notaire de la famille.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut se référer à d'autres personnes?
À mon expérience, moi, j'étais directrice des services à domicile dans un CLSC dans l'ouest de l'île. Et le plus souvent, c'était le travailleur social là, okay. qu'on affectait à ce genre de problématiques-là. Et c'était toujours un succès. Les travailleurs sociaux étaient tellement près de leurs patients, puis prenaient le temps de discuter avec la famille, puis finissaient par trouver une solution ensemble.
Donc, on se réfère à notre CLSC dans notre région, dans notre quartier.
C'est ce que je suggère le plus possible.
France Cardinal Raymette, je le disais tout à l'heure, vous êtes auteur de ce livre-là qui peut être extrêmement outillant quand la vie se fragilise chez Multimonde. Mais ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que vous êtes également infirmière de formation. En ce moment, vous êtes chargée de cours à l'UDM auprès de futures infirmières. Donc, vous êtes vraiment dans ce bain-là pour continuer à nous outiller en matière de santé. Merci beaucoup pour cette première chronique. Ça a été très, très informatif.
Merci.
Dernier segment de l'émission que l'on a voulu un petit peu différent aussi, vous orienter vers un coup de cœur. J'ai voulu que ce soit un moment un petit peu plus personnel, un guide un petit peu, ou de vous ouvrir les yeux sur une ressource, un petit truc qui fait du bien. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce dernier segment, qui fait réfléchir et qui est un baume un petit peu sur notre cœur. On est tous amenés à un moment donné à regarder des albums photos et à se dire, ben voyons donc. Le temps a donc bien passé vite. Qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là et où est passé le temps? Hein? Ça, c'est une question un petit peu farfelue. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait avec ce temps-là qui nous était attribué? On n'est pas les seuls à se poser cette question-là. Il y a un Américain au nom qui s'appelle Dustin Garris qui a travaillé pour de grandes, grandes multinationales un petit peu partout aux États-Unis, qui a, entre autres, voyagé partout dans le monde et qui a posé cette question-là, à savoir... Où va le temps? Qu'est-ce qu'on fait avec le temps? Et il s'est engagé dans sa vie, Dustin Garris, à lutter contre la monotonie. Il s'est engagé aussi à faire en sorte que la vie soit mémorable à chaque moment, à chaque minute, que la vie soit riche et heureuse. Il a une vidéo TEDx.com qui s'appelle Pursuit of a Memorable Life. Vous pouvez aller la visionner, très, très facile à trouver, où il nous dit, et ça, c'est assez, je dirais, ça laisse des traces, hein, lorsqu'il nous dit... C'est pas le nombre de jours que vous vivez qui est important. Ce qui est important, c'est le nombre de jours que vous vous rappelez. Faites en sorte que chaque minute de votre vie soit mémorable. Et ça, c'est une façon, et il y a des études à l'appui, c'est une façon de lutter contre la dépression, de lutter contre la tristesse, de lutter contre l'amnésie totale aussi. Comme truc, ce qu'il nous dit, c'est tenter de changer la routine. Vous vous habillez toujours en noir, mettez une robe fleurie, vous utilisez toujours le même trajet pour vous rendre au travail, changez votre trajet, cuisinez pour vos amis, changez votre coupe de cheveux, inscrivez-vous à un marathon, vous ne faites jamais de marathon, mais pourquoi pas vous inscrire à un cours de danse. Donc, c'est vraiment une façon, par des petits trucs dans le quotidien, de se shaker un petit peu, je dirais, hein, de se bouger les puces et de tenter que chaque minute de notre vie soit fantastique. Parce qu'il a fait ce test, il a demandé si vous vous remémorez ce qui s'est passé dans votre mois, de combien de journées vous pouvez vous rappeler. Et la plupart des personnes répondaient 2-3 journées, mais sans plus. Et il se disait, bien, c'est une façon de vraiment passer à côté de notre vie. Donc, Pursuit of a Memorable Life, vous allez trouver ça sur TEDx.com, une vidéo de Dustin Garris, vraiment très, très intéressante. C'est 14 minutes de votre temps, mais vraiment pour maximiser, rendre votre vie beaucoup plus intéressante. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Merci à tous les participants de l'émission, à Jean-Sébastien La Liberté derrière sa console, également à Laure Janson à la recherche. C'est Christiane Campagna aux médias sociaux. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h et qu'il y a différentes façons d'entrer en contact avec nous, Twitter, Facebook, par téléphone également. Notre site canalm.vuesetvoix.com. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous souhaite d'aller bien, de rester en santé bien longtemps. C'est ce que je disais en entrée d'émission. On veut vous garder avec nous longtemps et on se retrouve pour ça la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.